Inter GG.
La radio
pour tous.
Inter GG.
Gentilly.
Génération
Gentilly.
Bienvenue à l'émission Inter GG, Génération Gentilly. Je vais vous présenter les sujets avec les chroniqueurs qui sont invités aujourd'hui. Tout d'abord, Alain, qui va nous parler de son sujet « La transmission ». Et ensuite, Thibaut, qui va nous parler du service culturel de Gentilly. Ensuite, Malik et Fabienne, qui vont nous parler du sujet d'actualité « Surprise » pour cette première partie. Et ensuite, Malik, qui va interviewer Sarah sur la rentrée. Oksana qui va nous parler de la photographie argentique à Gentilly et Sarah qui va nous parler du sujet de Sadja, la chroniqueuse qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement et va nous parler de la pollution visuelle.
Inter GG, la radio pour tous.
Alain va nous parler de son sujet, la transmission.
Par le prisme de la radio, nous avons donc différents moyens de transmettre l'information, de transmettre ce que l'on veut transmettre, c'est-à-dire les données, les connaissances, et la transmission du savoir de génération en génération, en écoutant dialogues et controverses qui suscitent parfois chez nous une remise en question de nos valeurs.
Inter-GG,
la radio
pour tous.
Et maintenant, nous allons accueillir Thibaut, qui va nous parler du service culturel.
Merci Fabienne, bonjour tout le monde. Je suis gentilien depuis 2 ans et j'ai pu assister à nombreux spectacles à Gentilly. Et j'ai fini par me demander un petit peu comment est-ce que ces spectacles étaient programmés et organisés. Je suis donc allé à la rencontre d'Isabelle, qui est directrice du service culturel de Gentilly et qui va nous parler justement la programmation des spectacles de la ville.
Inter GG.
Dans la programmation que vous préparez chaque année, est-ce qu'il y a des critères particuliers qui vous aident à vous orienter ou à vous guider vos choix ?
Il faut qu'à la fois ce soit un spectacle de grande qualité, populaire. On a des coûts qui sont très raisonnables, donc ouverts à tous les publics. Maintenant, on reste quand même dans des petites formes. On peut pas avoir beaucoup de gens sur le plateau, par exemple, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter ce type de proposition aussi. On peut pas avoir beaucoup de changements de décor ou de décors trop importants, parce qu'on n'a pas les conditions techniques d'un accueil. On peut pas faire certains types de projets comme de la danse dans la salle des fêtes, parce que le plateau est trop haut. Enfin voilà, ce sont plein de petites conditions qui sont mises les unes à côté des autres. Alors bien sûr, on a des retours des publics, on a des conseils, on croise personnellement des gentiliens sur des spectacles à l'extérieur de Gentilly et sur lesquels on échange. Mais parfois, un spectacle qu'on va trouver super bien, il ne sera pas adapté, on ne pourra pas l'adapter dans la ville.
Et est-ce que les habitants de Gentilly peuvent vous faire des suggestions ?
Pour l'instant, on a un programme avec les enfants où, en effet, les enfants ont des actions culturelles et mènent des ateliers dans les différents domaines du spectacle depuis, je dirais, plus de 10 ans, où ils suivent des actions, ils vont voir des spectacles, ils rencontrent des artistes. Et donc, on sait qu'ils deviennent un peu experts. Donc, on leur propose de nous donner leurs choix, leurs arguments. Mais c'est compliqué à monter ce type de proposition parce qu'il faut qu'ils aillent voir plusieurs projets, plusieurs spectacles. Et pour l'instant, on a réussi à faire ça au niveau des films, donc avec des ateliers de programmation de cinéma.
Et est-ce que vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui marche mieux que d'autres ?
Je dirais l'idée de programmation, c'est aussi de pas forcément aller vers les choses qui vont attirer le plus, mais plutôt donner à voir toute la variété, la diversité, la pluridisciplinarité de la culture et des spectacles culturels. Et de pas se figer sur un spectacle qui marche bien et reproduire ce moment à l'infini, genre « ouais, ça marche, ça marche, ça marche ».
Et une dernière question, si vous aviez les moyens nécessaires et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, quel serait un peu le spectacle de rêve que vous voudriez avoir cette année ou l'an prochain ?
Je préfère plutôt dire cette idée de travailler à ce que les enfants deviennent experts, puissent programmer, valoriser aussi leur choix dans le festival. C'est quelque chose qu'on commence à mettre en place, qu'on essaye d'accentuer. Et il serait vraiment juste que dans notre programmation apparaissent des spectacles. Ce ne soit pas forcément moi qui les ai choisis ou quelqu'un de l'équipe, mais peut-être des habitants, mais que ce soit des spectacles tellement justes par rapport au fait qu'ils sont adaptés à la ville, au projet, et bien qu'on ne le sache pas, mais que ce soit bel et bien des spectacles programmés par des enfants, des ados ou un public spécialiste. Voilà.
On a entendu que le service culturel doit s'organiser avec plusieurs contraintes pour faire son programme. En tant que spectateur et habitant, est-ce que vous auriez des suggestions ou des commentaires? Alain, par exemple, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que les spectacles proposés par les services culturels sont assez éclectiques. Hein. Enfin, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est plus la musique et la peinture. Et j'estime qu'elles sont gentilles. Le service culturel propose souvent des choses intéressantes, surtout des choses que l'on ne voit pas souvent ni à l'atelier, qu'on n'entend pas souvent. Voilà, c'est des choses éclectiques, mais qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire.
Ok, merci. Et toi, Fabienne, qu'est-ce que t'en penses?
Je trouve que le service culturel de Gentilly propose des spectacles, activités assez variées, mais je pense que ça serait une bonne idée de mettre en place un moyen de communiquer les idées de chacun sans plus simple et plus clair, comme par exemple un endroit où on pourrait aller et indiquer ses idées et puis ensuite voir si elles sont acceptées ou non.
Super. J'espère que le service culturel nous écoute pour pouvoir un peu voir comment intégrer tout ça dans leur travail pour les prochaines années. Je vous propose maintenant d'écouter Malik, notre programmateur musical, et Fabienne, ma co-animatrice, qui vont nous parler d'un sujet d'extrêmement d'actualité puisqu'il s'agit du confinement.
Diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name?
I said I like it like that.
La radio pour tous.
Bonjour au public qui est venu de Gentilly et des communes voisines. Bonjour aux chroniqueurs qui nous accompagnent aujourd'hui pour présenter l'émission avec nous. Et aussi bonjour aux internautes qui verront l'émission en différé sur Internet. Moi et Fabienne, on a vécu un confinement comme beaucoup d'habitants en France. Et on va vous raconter comment ça s'est passé. Alors on va commencer par toi du coup, Fabienne, qui m'accompagne dans cette chronique. Alors comment as-tu vécu ce confinement ?
Je l'ai vécu assez bien au début et puis après ça a commencé à être long, donc un petit peu ennuyant. Mais ça m'a permis de lire les livres que j'avais pas lus dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Ça m'a permis aussi de me rendre compte de l'importance que c'était de voir les gens, de les regarder, de les toucher, de discuter avec eux en vrai, même si j'en étais déjà un peu consciente, mais quand on nous retire quelque chose, ça a tout de suite plus d'importance quand on l'a pas. Après, comme tout événement, il y a ses hauts et ses bas, mais je pense que je m'en suis pas mal sortie.
D'accord, parce que c'est vrai que 2 mois, c'est quand même quelque chose, c'est une grande période. As-tu fait du sport pendant ces 2 mois?
J'ai essayé de commencer le yoga, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Du coup, bah, je me suis mis à la cuisine et ça a été un régal.
Je vais aussi m'introduire dans le sujet. J'ai donc passé un confinement terrible, car c'était en famille, tout ça, dans la maison. Et dans un petit espace, c'est vrai qu'on veut facilement et vite de l'air pour pouvoir bouger. Le terrain de foot me manquait, mes amis aussi. Et c'est vrai que le confinement nous a tous mis une claque, en fait. On pourra le dire dans pas longtemps, on a vécu cette grande période de pandémie. Quand elle sera finie, du coup, et que ce sera au passé. Et j'aimerais donc poser la question à Sarah. Sarah,
comment ça s'est passé pour toi?
Ça a été assez compliqué. Voilà, heureusement qu'il y avait mon conjoint et qu'on a pu se répartir les tâches. Voilà, moi, j'étais en télétravail. Mon conjoint était en congé pour les enfants. Et donc, c'est lui qui faisait les maîtres. Il s'occupait beaucoup des enfants pour pas qu'ils soient traumatisés. Le déconfinement a été très compliqué au point de vue du travail, pareil, pour avoir une place pour les enfants, pour pouvoir reprendre le travail, mais quelle était la priorité? Que les enfants soient bien à la maison, protégés, ou absolument reprendre le travail pour l'économie du pays? C'est des questions, pour moi, où on n'avait pas de choix à faire, il aurait fallu s'occuper des enfants, mais ça nous laissera tous des traces, je pense.
Alors maintenant, je vais poser la question à Jean-Claude, comment s'est passé son confinement à lui et les répercussions que ça a eues sur son quotidien de maintenant.
La première crainte que j'ai eue, c'était une atteinte à mes libertés, ne pas dépasser un kilomètre, mettre un masque. Parce que moi, j'appartiens à une génération qui s'est battue pour des libertés dans les années 70. J'ai eu quelques jours de difficultés où je ne sortais plus. Il fallait bien que je fasse des provisions. Alors, comme tout bon Français, j'ai un peu truandé. C'est-à-dire que je trafiquais mes autorisations de sortie. Je mettais des heures qui ne correspondaient pas, mais qui pouvaient être vérifiées par la police. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs contrôles où ils ont douté. J'aurais dit vous doutez, mais vous ne prouvez pas. Mais je me suis aperçu aussi que d'une autre manière, j'ai pu vivre d'une manière positive. J'ai découvert plein de choses. Je m'imposais le matin de sortir pendant 2 heures, alors qu'on avait une heure. Et j'ai fait connaissance de voisins que je ne connaissais pas. J'ai rencontré une infirmière qui habite à la lisière de Paris. On a discuté pendant 2 heures. Je ne sais pas si c'est dû au confinement, mais c'est une circonstance qui s'est posée. Mais moi, ce qui est plus dur, en fait, c'est mon confinement, c'est l'après-confinement. Je m'ennuie. J'ai un ennui terrible. Pourtant, je retourne au cinéma. Ici, à la Maison des Familles, avec Dany, on a fait des ateliers d'écriture. On a écrit des textes sur le confinement. J'ai du mal à retrouver mes repères. Mais il y a quelque chose de diffus qui me gêne. Et j'ai du mal à m'en défaire.
Merci beaucoup, Jean-Claude.
Par contre, j'aurais quand même une question, puisque j'ai entendu tout à l'heure Malik et Fabienne, qui sont quand même les plus jeunes d'entre nous. J'ai envie de leur poser une question qui est quand même m'interpelle. Allez. Comment les jeunes qui sont adeptes des réseaux sociaux ont-ils vécu leur manque de relations physiques avec leurs amis? S'il y a eu manque. J'aimerais bien qu'ils me répondent à cette question.
Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai ressenti le manque dès le début de ce confinement, car je suis plus habituée à parler avec mes amis en vrai, face à face, qu'en message, car je trouve qu'en message, c'est plus difficile de transmettre des vraies émotions. Le seul moyen de faire un face-à-face, c'était d'appeler par cam. Mais même comme ça, je trouve que ça remplace et ça remplacera jamais, je pense, le vrai contact. Et être patient, surtout, c'est surtout ça, être patient. Voilà, ça a été un peu difficile pour ma part.
Malik?
Patient, mais rien ne nous empêchait de sortir pour partir voir discrètement ses amis, comme j'ai pu le faire. Donc, j'ai pas trop vécu mal ce confinement.
Est-ce que finalement, le rapport physique est encore supérieur au rapport numérique, aux réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Même si nous sommes en plein dans l'ère du numérique, comme Fabien a dit, ça ne remplacera jamais un contact. Le contact virtuel ne remplacera jamais un contact physique.
Moi, j'ai l'impression que tout ce confinement, cette pandémie, ça m'a encore plus détaché de mon téléphone. Avant, j'y étais un peu. Mais là, j'ai l'impression que j'y suis presque pas, à part pour voir l'heure ou pour voir des choses que j'ai vraiment besoin.
Merci Fabienne, merci Malik pour le traitement de ce sujet qui nous a tous touchés. Et je vous propose qu'on continue avec Malik qui va garder le micro qui va interviewer Sarah sur la rentrée scolaire.
Rebonjour Sarah, comment tu vas ?
Rebonjour Malik, je vais très bien et toi ?
Ça va top. Alors la rentrée scolaire.
Voilà, je voulais faire un petit témoignage, expliquer un petit peu ce qui se passait sur la ville et je pense sur l'ensemble du territoire. Là, je vais parler plus en tant que professionnelle. Je suis éducatrice spécialisée donc sur la ville de Gentilly. Je travaille à l'association Espoir.
Bonjour
à eux. Et donc, j'accompagne les 12 à 25 ans dans leur insertion générale. C'est vrai qu'avec le confinement, le déconfinement, beaucoup de jeunes ont eu leur diplôme, donc ce qui est bien. Mais ils ont fait des vœux après sur Parcoursup, ça doit vous parler. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui n'ont pas d'école à la rentrée, alors qu'ils ont eu leur diplôme, qu'ils ont fait des demandes. Il se trouve que beaucoup de secteurs sont complètement bouchés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quoi faire de ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? On parle beaucoup qu'on est en lien avec les partenaires du service civique qui peut dépanner et faire une première expérience professionnelle, mais ce n'est pas une formation. Voilà, c'est une expérience de terrain qui est certes très importante, mais qui ne remplace pas une formation et une école. Donc voilà, c'était pour me témoigner que ça m'inquiétait et que ça inquiétait également l'équipe et qu'ils venaient nous voir au local, et malheureusement, on ne sait pas comment trop les orienter.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi.
Je vais poser la question à une personne dans la salle qui a aussi eu sa rentrée, donc Fabienne, rebonjour.
Rebonjour, Malik.
Comment s'est passée ta rentrée ? En quelle classe es-tu rentrée ?
Je suis rentrée cette année en DUT technique de commercialisation à Créteil, et ça a été très spécial comme rentrée. Dans ma promotion, je connais personne et d'habitude j'ai pas de mal à aller voir les gens, discuter avec eux, tout ça. Mais là, c'était totalement différent. Toutes les personnes étaient dans leur coin, même celles qui étaient en groupe, elles étaient un peu spéciales. C'était vraiment le mot spécial. Du coup, on était tous avec le masque et je trouve que ça a beaucoup éloigné les personnes. Déjà, je trouve pas d'autres mots. Du coup, ça a été compliqué jusqu'à... Du coup, là, ça fait une semaine et j'ai parlé à 2-3 personnes, c'est tout. Alors que pourtant, on est 200. Et j'espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer.
Merci beaucoup. Une dernière question. Quel effet de voir tous tes camarades de classe avec un masque sur la tête ?
C'est étrange dans le sens où on voit que leurs yeux et je trouve que les yeux c'est un moyen de transmission d'émotions de beaucoup de choses. C'est un moyen de voir beaucoup de choses et le fait de voir juste les yeux d'une personne et pas voir ses expressions faciales, le fait juste un sourire, de voir si elle est réactive ou non à ce que tu lui dis. Je trouve que c'est perturbant parce que ça amène à changer la manière d'aborder les gens et puis même de parler parce qu'au bout d'un certain temps de discussion, on en vient à être un peu essoufflé. C'est un peu compliqué. Les yeux, je trouve que c'est un miroir de l'intérieur de la personne et enfin, en tout cas, moi, je ressens certains traits d'une personne que je peux ne pas connaître et qui me transmet une certaine émotion sans même qu'elle-même s'en rende compte. Et du coup, c'est un peu perturbant.
Et merci à ces témoignages. Interjégé revient juste après ça.
Interjégé.
La radio
pour tous.
Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba.
la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Radio pour tous.
Nous allons accueillir Sarah qui va nous parler du sujet de Sadja, la chroniqueuse qui n'a pas pu être là, sur la pollution visuelle.
Sadja est allée à la rencontre des habitants de Gentilly pour leur poser des questions sur la pollution visuelle. Tout de suite, le micro-trottoir.
Si tu devais classer les types de pollution visuelle, comment classerais-tu les trois plus importantes ?
Pour moi, les trois plus importantes, c'est les affiches qu'il y a dehors, la pub, et tu sais, le truc qu'il y a à Paris qui brûle les déchets et ça envoie de la fumée. C'est visuel, ça. Bah, pour moi, il y a aussi celle-là.
D'accord, en fait.
Et ça peut aussi nous engager des maladies qu'on respire.
Qu'est-ce que tu fais pour te protéger de cette pollution visuelle ?
Bah, je fais avec, je vis avec. Surtout quand on regarde un film à la télé et qu'il y a une pub, ben on crie. Pourquoi elle est là, la pub ? Ou des choses comme ça. Donc, on parle pas, mais sur le moment, oui.
Qu'entends-tu par pollution visuelle ?
Ce qu'on appelle la pollution visuelle, c'est surtout provoqué par les affichages, notamment, ou tout ce qui peut nous gâcher la vision d'un paysage naturel, d'une manière artificielle. Parce que ça peut rompre la vue d'un paysage beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. Là, c'est choquant. Et puis, on a affaire à des slogans publicitaires. C'est sans ça que ça peut être gênant.
Dans l'absolu, Jean-Claude, qu'est-ce que tu ferais contre cette pollution visuelle ?
Alors là, c'est un dur combat que je ne pourrais pas mener tout seul. Puisque l'affichage, c'est quand même des grandes compagnies d'affichage et tout. Je crois que ça me dépasse. Malheureusement.
Est-ce que tu parles souvent de cette pollution visuelle ?
Non, je ne parle pas de pollution visuelle, non, à qui que ce soit. Par contre, on la subit.
Accepteriez-vous que je vous pose quelques questions ?
Oui, avec plaisir.
Alors pour vous, qu'est-ce que la pollution visuelle ?
Oh, on n'a plus de lumière noire la nuit. Ça, je trouve ça terrible. Pour trouver une vraie nuit sans lumière, ben, il faut aller loin.
C'est-à-dire une nuit sans... Une nuit sans lampadaire.
Voilà. Et même quand on est en pleine campagne, de loin, on voit toujours des lumières. Et ça, je trouve ça terrible. De ne pas avoir de vraies nuits noires. La pollution visuelle. Oh, ben, c'est quand dans les entrées de ville, vous avez plein de placards pour faire des pubs plus laides les unes que les autres. Ah, ça, je ne supporte pas. Enfin, je suis bien obligée de supporter.
Et donc, est-ce que vous en parliez autour de vous ?
Oui, parce que quand je suis avec des amis, surtout dans la campagne, et qu'il y a des phares qui indiquent des endroits où il y a des boîtes de nuit. Donc, toute la campagne est balayée. Alors ça, c'est odieux.
Est-ce que vous pensez que les jeunes générations sont beaucoup plus exposées à cette pollution visuelle ?
Bah, ils ont tous les écrans. Quand je vois des tout-petits sur le portable de leurs parents en train de regarder, là, j'avoue que ça me fait mal. Donc, je pense que rien ne remplacera les jeux. Le corps participe. Tandis que j'ai l'impression que le corps, quand on est devant un écran, ben, ne participe pas beaucoup. C'est la tête. Et alors, le cerveau, là, il doit prendre un coup.
Non, mais c'est intéressant de voir l'avis de différentes générations. Et donc, est-ce que les adultes peuvent aussi être touchés par cette pollution ?
Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, la première, je suis sur mon ordinateur un peu trop. Je suis un peu accro, mais il ne faut pas que je me prenne trop au sérieux. En fin de compte, j'écris pour le plaisir et j'écris beaucoup à mes amis.
Est-ce que vous pensez du coup qu'il y aurait des moyens de contrer cette pollution visuelle ?
Qu'est-ce qu'on peut remplacer par quoi ? Bon, alors ça, c'est... Je ne sais pas.
InterGG, la radio pour tous.
Merci Sarah pour nous avoir présenté ces interviews. Et maintenant, on a Oksana qui va nous faire une petite chronique culturelle.
Bonjour tout le monde. La photographie est ma plus grande passion. Un jour, à Gentilly, j'ai trouvé une association, le Cercle Photo de Gentilly. Super, c'est une vraie magie. Les gens font des photos comme dans le passé. Et ils ont accepté de tout m'apprendre. C'était mon rêve. Alors, j'ai pris mon ancien appareil photo pour faire quelques portraits d'une copine en noir et blanc. Le laboratoire est une nouvelle atmosphère. J'ai sorti les pellicules de l'appareil dans l'obscurité de la chambre noire où mes doigts sont devenus mes yeux. Ensuite, j'ai mis le film dans la cuve, fermé le couvercle et rallumé la lumière. Puis, je verse du réverbérateur, attendu 8 minutes. Enfin, j'ai vidé la cuve pour verser de l'eau propre et attendu 2 minutes. J'ai répété 2 fois les mêmes opérations et puis j'ai rincé la photo avec de l'eau. Tous les liquides avaient une température de 20 degrés. Le travail sur le film achevé. Je l'ai laissé sécher pendant une journée. Restait alors à transférer l'image sur le papier photosensible grâce à la grande essor. En son, je n'avais effectué que la moitié du chemin. Dans le monde moderne, la technologie numérique est synonyme de vitesse. En comparaison, le temps passé en laboratoire semble perdu. Pour ma part, c'est devenu un temps de contemplation et de concentration, un temps de méditation, une île de silence dans la mer bruyante. J'apprends à être patient car tous ces processus photographiques requièrent de la discipline. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler de Cercle Photo de Gentilly. Maintenant, je vais vous présenter son président, Jean-Pierre Lécotte.
Bonjour, Jean-Pierre Lécotte. Depuis quand existe le Cercle Photo de Gentilly?
Je n'en ai pas de souvenir. Lorsque je suis arrivé à Gentilly, c'était en 69, j'ai tout de suite adhéré au Cercle Photo qui existait déjà. Le laboratoire existait depuis déjà un certain temps. Hein. Et il existe toujours. C'est une de mes plus grandes joies.
Pourquoi choisir l'argentique à l'heure du numérique?
Si on veut présenter la photographie comme étant une démarche artistique, on est obligé de la rendre pérenne. Il faut à tout prix qu'elle existe, elle se perpétue et qu'on puisse la retrouver dans 50 ans. Chose qui sera peut-être très douteuse pour la photo imprimée numérique.
Et pourquoi noir et blanc?
Le noir et blanc, parce que c'est un travail sur la lumière. Dans un tirage couleur, dans la photographie couleur, on peut très bien se passer de lumière. Alors que dans le noir et blanc, on doit la choisir, la lumière. Et on peut même la modifier. Voilà, ça c'est aussi c'est excessivement précieux. Ce qui m'intéresse dans le noir et blanc surtout, c'est d'avoir la possibilité de tout faire, de A jusqu'à Z, jusqu'au tirage définitif.
Et quel est votre sujet préféré?
Alors moi, c'est complètement personnel. J'ai un rapport particulier avec la nature. Les paysages, bien évidemment. Et puis, comme j'habite dans une ville, une capitale, j'ai été amené aussi à me soucier du décor urbain, c'est-à-dire de mon environnement urbain. C'est-à-dire des photos de maisons, de rues, etc. Voilà.
Merci beaucoup.
Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova, c'est
GG, la radio pour tous.
Maintenant, Oksana va nous parler des voitures volantes avec le micro-trottoir.
Il est dit que dans 3 ans, il y aura des voitures volantes. Nous avons demandé leur avis à quelques passants. On écoute le son tout de suite.
Une société de VTC a annoncé qu'elle mettra en place des taxis volants dans quelques années. Qu'en pensez-vous ?
Disons que j'ai du mal à y croire. Parce que la voiture volante, ça reste, à mon avis, une utopie. Donc,
On parle de 2023.
2023, ah oui, d'accord. Ah oui, alors encore moins, du coup.
Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, des taxis volants ?
J'en ai déjà pris plusieurs.
À quel moment ?
En sortant de la salpêtrière où j'étais malade, j'ai demandé à prendre un VTT désert. Les ambulanciers n'étaient pas terribles, mais j'ai quand même vu Paris au-dessus de ce que j'avais jamais fait. Voilà, c'est une très belle expérience. Et maintenant, j'espère que ma voiture va pouvoir fonctionner de la même façon.
Et du coup, est-ce que vous pensez que les voitures volantes, les taxis volants, devraient être réservés seulement pour les urgences ?
Si ça devient un taxi volant, c'est accessible à tous. Maintenant, je pense que si on se retrouve avec du taxi volant comme on a du taxi routier, ça va être très compliqué. Donc effectivement, pour le coup, ce serait peut-être plus axé pour les urgences. Ça serait peut-être plus intéressant.
Est-ce que vous pensez que ces véhicules pourraient être gênants ?
Les taxis volants, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Pour moi, on va encombrer le ciel encore. J'entends bien qu'on fasse quelque chose comme ça pour alléger les routes. Uh-huh. Mais ça serait pas mieux de revenir en vélo et des petites choses plus sympas.
Déjà, les taxis dans les routes, madame, on n'arrive pas à maîtriser. En volant, ça sera pire. D'accord. Ça sera tous les jours les accidents, tous les jours le... Non, je suis contre.
Auriez-vous peur de monter dans un taxi volant ?
Pas particulièrement. J'aurais pas particulièrement peur. On verra.
Parce que là, on parle de 2023.
On n'est pas loin.
Ouais, oui. Comment imaginez-vous le taxi volant ?
Dangereux, oui. Déjà dans l'avion, on est mort de peur. Uh-huh. Pour avoir un taxi volant, ça serait pas ça, hein. Non, moi je suis pas d'accord. Non, un petit vélo, oui.
Comment l'imaginez-vous ?
Comme dans le cinquième élément.
Moi, c'est Retour vers le futur.
Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai plus Ouais, moi, je suis plus jeune, c'est pour ça, donc le cinquième élément. Dans ce style-là, en tout cas.
Auriez-vous peur de monter dans un taxi volant ?
Je sais pas. Franchement, je pense qu'il faut être sur le fait accompli. Parce qu'on monte dans les avions en se disant que c'est toujours sûr. Maintenant, le taxi, ça peut aussi avoir des petits défauts et ça peut être aussi agréable.
As-tu déjà entendu parler du taxi volant ?
Oui, j'ai déjà entendu parler du taxi volant.
À part le fait qu'il y aurait des voitures volantes en 2020, non, pas du tout. Vous étiez déjà au courant qu'il y avait des projets en cours ?
Absolument.
Et dernièrement, on a pu voir à travers des nouveaux drones qui pourraient être des taxis volants. On en parle d'ailleurs déjà pour des livraisons. Donc ça veut dire qu'on a déjà des drones qui portent une charge. Peut-être certains drones qui pourraient aller porter des satellites dans l'espace. Ou des drones qui vont pouvoir surveiller des lignes SNCF avec du combustible solaire.
Est-ce que vous pensez que ces véhicules pourraient être gênants ?
Oui, ça pourrait être gênant par rapport aux gens qui sont au sol et même pour la planète. Parce que même si c'est électrique, ça reste quand même des matières à utiliser pour créer la voiture. Et oui, ça pourrait être gênant.
Et enfin, comment l'imaginez-vous ?
Retour vers le futur. Une voiture qui flotte.
Vous les préférez de quelle couleur ?
Quelle couleur ? Oh, c'est drôle, j'ai pensé blanc tout de suite. C'est peut-être parce que le premier que j'ai pris était blanc.
Mais c'était pour les urgences, c'est ça ?
Oui, mais enfin... Oui, ben, hélas, je m'en suis servi que pour les urgences. On n'en a pas sous la main comme ça tous les jours.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, ces taxis volants pourraient totalement remplacer les voitures actuelles ?
Alors, on n'aurait plus de ciel. On ne verrait plus les nuages. Ah ouais, c'est ça, je n'avais pas pensé. C'est agréable, quand on est là-haut, de voir en bas. Ça, c'est génial. Mais si on est en bas, on a envie quand même de voir le ciel. Il faudrait qu'il soit transparent. Voilà. Il faudrait qu'il soit transparent. On rêve tous d'être un oiseau.
Et merci.
Mais ça me permet de réfléchir à des choses auxquelles je n'avais pas réfléchi.
Inter-GG.
La radio.
Pour tous.
Merci à tout le monde pour cette belle émission. C'était Inter-GG Génération Gentille, avec cette première édition qui remerciait la Maison des Familles, l'association Espoir, format CAB sur les ondes, et le CCAS et la ville de Gentilly. Et immense merci à Sylvie, Sarah et Lorena pour leur aide. Retrouvez-nous sur le site de CAP sur les ondes en partager l'émission autour de vous. À bientôt.
Inter-GG, la radio pour tous.
Se olvida subiendo y bajando como una machina. Todo el mundo pide música latina. Se baila en Europa, América y la China.
Pegadito a la pared. Y que se joda quien te ve. Y pegadito a la pared. Yo sigo
bailando reggaetón en paz.
Mando como a 109 más. ¿Qué va a ser? Dime que tú te atreves. Tengo 300 mujeres en party bailando reggaetón. Bebé, lo que lo mueve, mai. Un arrebato de hachí. Yo tengo la crema de la crema. No nací pa' competir más. Morenita, flaquita, petit. Mezcla con Panamá, Puerto Rico, Iraquí. Dime a mí. De ponerla a mover, yo soy un diestro. Pero paseando a todo tiempo, yo estoy hecho un maestro. Mucho gusto, suena, me presento. Si llevo en la disco con piquete, soy el que no estoy atento.
Dímelo,
Cap sur les ondes.
Cap sur les ondes.
Com.
Com.
Radio.
Cap sur les ondes.